Quand le père Benoît Marchal m'a confié cette causerie du carême, il a insisté sur l'écologie intégrale. Si bien que j'ai axé mon propos sur l'écologie intégrale qui est en réalité le centre de l'enseignement du pape dans son encyclique et que nous retrouvons dans son exhortation apostolique sur l'Amazonie. Cette encyclique est un point majeur dans l'enseignement social de l'Église. Je crois qu'elle fera date à ce titre parce que le pape reprend, je dis qu'il reprend, ce qui déjà avait été plus ou moins travaillé, il reprend la position de l'Église sur l'écologie, les problèmes de l'écologie, les problèmes de l'environnement, les problèmes de tous les jours. L'écologie, vous le savez, ben, elle est passée de mode. La mode, ça passe. Il fut un temps où on ne parlait que de ça, l'écologie, mais c'était un peu farfelu pour reconnaître. Les écologistes, vous savez, les verts, plus ou moins, on ne savait pas trop ce que c'était. C'était un peu aventureux. Eh bien, ce temps-là est passé. L'écologie n'est plus à la mode, n'est plus une mode. C'est une réalité qui est abordée partout lorsqu'il s'agit de vivre ensemble et de vivre ensemble dans un environnement. C'est ça qui est important, je crois. Et c'est à ce titre que ce texte restera comme un moment essentiel de la vie du monde, économique, politique, culturel, social, comme a été importante la première encyclique sociale, celle de Léon XIII. C'est un point majeur que je crois tout le monde maintenant reconnaît. Le pape a bien compris cela. D'ailleurs, il venait d'un pays où ces problèmes se posent d'une manière extrêmement vive et dure. Quand j'ai lu cette encyclique, je me dis déjà le pape avait en tête le synode des évêques pour l'Amazonie. Ce n'est pas possible qu'il ait écrit cette encyclique sans que déjà il eût dans sa pensée profonde, dans sa réflexion de théologique aussi, de théologien, de pasteur, tous ces problèmes d'Amazonie. Je crois que ces problèmes-là ont aidé le Saint-Père à rédiger ce texte important de l'encyclique. Il a bien compris cela et il donne à la doctrine sociale de l'Église un chapitre de plus à tous ceux qui ont déjà été écrits par ses prédécesseurs. Cette encyclique se présente sous plusieurs chapitres. Je vous les lis pour que vous ayez, ça sera repris plus tard par celui qui la présentera d'une manière beaucoup plus didactique que moi. Premier chapitre, ce qui se passe dans notre maison. Ah, là nous avons la manière dont le Saint-Père se situe. Il parle toujours d'abord des réalités. Il ne parle pas de la doctrine de laquelle on déduirait des éléments intéressants pour la vie pratique. Il parle de la vie pratique et il dit, après une analyse, même si elle est brève, elle est toujours juste. Et à partir de cette pratique, il dit, mais voilà les enjeux, voilà ce qui est en jeu sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan spirituel. Donc, ce qui se passe dans notre maison, il regarde. Il fera la même chose pour l'Amazonie. Alors, je vous dis quelques sous-chapitres, la pollution, changement climatique. On y est dedans. C'est à ce titre-là que cette encyclique nous est quotidienne par certains côtés. La question de l'eau, la biodiversité, la détérioration de la qualité de la vie humaine et la dégradation sociale, nous verrons comment lier cela, l'inégalité planétaire et diverses opinions. Deuxième chapitre. Alors là, après avoir fait le constat, qu'est-ce qui se passe, hein, comment on peut l'aborder? Deuxième chapitre, l'évangile de la création. C'est un très beau chapitre, notamment sur le plan de la théologie de la création. Vraiment, c'est un deuxième chapitre déjà théologique et spirituel qui fait la transition entre le constat et après ce qu'il faudra continuer comme analyse. Troisième chapitre, la racine humaine de la crise écologique. De crise écologique. Et oui, la racine, elle est humaine. Alors, la technologie, il aborde les questions de technologie, créativité et pouvoir. La technocratique, dit-il, le paradigme technocratique. Je vous en dirai un mot tout à l'heure, il est assez dur pour tout ce qui est technique, non pas qu'il ne l'accepte pas, mais comment on mène la technique, comment on la conduit et pourquoi, vers quoi on la conduit. Quatrième chapitre, une écologie intégrale. Voilà, c'est ce chapitre qui me paraît le centre, l'écologie intégrale, sur lequel je vais m'arrêter dans un moment. Mais déjà, je vous dis, l'écologie de l'environnement, économique et sociale, l'écologie culturelle, il y a de très belles pages sur la culture, l'écologie de la vie quotidienne, c'est la nôtre, le principe du bien commun et, ce qui est très cher au pape François, la relation entre les générations. Cinquième chapitre, quelques lignes d'orientation et d'action. Sixième chapitre, qui est très beau, éducation et spiritualité écologique. Je pense que Monsieur Moller en a quelque peu parlé. C'est là où il parle d'une spiritualité écologique. Moi, je n'en dirai rien, sauf s'il y a quelques questions qui seront posées. Donc, le pape aborde un champ immense. Il veut tout embrasser, les choses les unes après les autres, mais il les lie les unes aux autres. Et c'est ça qui est neuf. Et nous savons combien le pape est très soucieux des relations entre les êtres humains, notamment avec les différences qu'il faut savoir accepter entre nous. Il est très fort pour parler du bien commun qui est le centre vital de toutes ces relations. Et puis, il fait toujours la part du pauvre, la part du délaissé. Ça vient un peu sous sa plume, comme naturellement. Chaque fois, il n'oublie pas ceux qui, parmi nous, dans notre humanité, sont les délaissés ou les incompris, peut-être même les victimes. Donc, il aborde un champ très vaste. Et j'avoue que parfois, on s'y perd. On s'y perd parce que tellement que tout est abordé. Mais on s'y retrouve parce que tout est lié. Vous savez, vous vous souvenez, vous les plus anciens comme moi, combien la doctrine de l'Église parlait de tout l'homme, tout l'être humain et tous les hommes. L'Église n'accepte pas qu'on saucissonne l'humain. L'humain est un tout. Et l'humanité est un tout. L'Église a toujours défendu cela, c'était sa force. Comment le pape va-t-il faire un pas de plus? Cet être humain qui est un tout, cette humanité qui est un tout, est liée à un environnement. Et c'est vrai qu'on situait l'homme, l'être humain, dans son environnement. Dans son environnement. Mais le pas de plus que j'évoquais, ce n'est plus cela, ça demeure cela, mais c'est l'humanité, l'être humain, avec son environnement. Le passage, il est là. Avec son environnement. Donc, il faut regarder l'environnement aussi pour lui-même. Pas simplement comme un lieu dans lequel l'humanité se déploie, dans lequel elle va trouver les vivres dont elle a besoin, les conditions de son expansion. Non, l'environnement a lui-même une réalité qu'il faut voir pour elle-même. Ça, c'est neuf. Vous me direz, on y était déjà presque habitué, enfin, on voyait qu'on évoluait vers cela. Mais quand on lit ces textes, la clarté de cette position est, je crois, importante, elle est neuve. Ce qui fait qu'on est obligé de changer son regard, de changer ses positions, de changer même son mode de vie par rapport à tout ce qui est notre environnement. L'environnement a une valeur par lui-même. Et là, vous retrouvez la théologie de la création. Voilà. J'ajoute, avant d'entrer dans le sujet plus au fond, j'ajoute que le pape a un don d'admiration. Alors que nous sommes là dans la tristesse folle, dans cet épuisement des êtres humains, dans cette victimisation que l'on a un peu partout, hein, dans ces injustices, ces crimes, tout ce qui est mauvais, hein, eh bien, hein, soudain, il admire quelque chose de beau, quelque chose de vrai. Il a ce don d'admiration, ce qui fait que la lecture de ce texte est vraiment facilitée par rapport à ce à quoi nous étions habitués antérieurement avec la dogmatique et puis les principes étant posés, on en déduit les conséquences. C'est tout à fait autre chose. Je voudrais aussi donc vous partager cette admiration que j'ai eue avec le Saint-Père, non pas simplement de son texte, mais à travers son texte, de ce qu'il décrit, de ce qu'il souhaite, de ce vers quoi il veut que nous allions. Je vous disais que parfois cette encyclique est difficile par le champ qu'il aborde, mais elle est difficile parce qu'il aborde en vérité tous les champs, toutes ces positions de technique, de technologie, de climatique, parfois c'est un peu savant, si j'ose dire, comme quoi il est bien renseigné ou il s'est bien renseigné pour écrire tout cela. C'est vrai que si on n'est pas ouvert à ces questions de technologie, de technique ou d'économique, ou de politique même, on est un petit peu perdu. Donc c'est un texte simple, mais difficile, parce qu'il aborde toutes les questions, et les questions d'éthique aussi, qui ne sont pas mises de côté. Donc ce cinquième chapitre qui nous intéresse, que dit-il? Je vous disais qu'il est le cœur, pour moi, le cœur de l'encyclique. Que retenir de l'expression écologie intégrale? Le mot intégral, qui prend un sens nouveau, une connotation nouvelle, une richesse nouvelle, ce mot revient continuellement, au risque peut-être d'en agacer certains. intégrale. Tout à l'heure, quand je vous disais tout l'homme et tous les hommes, c'était l'humanité intégrale. Maintenant, cette intégrité, le mot « yé » dans l'encyclique, prend un sens beaucoup plus large et donc nous oblige à ouvrir, élargir notre regard. Oui, intégral. Cela veut dire qu'on ne peut rien laisser de côté. Cela veut dire que tout l'être humain doit être pris en cause, toute l'humanité et aussi tout l'environnement avec ses diverses approches politiques, économiques, techniques et scientifiques et éthiques. Et il ajoutera, et le spirituel bien sûr. Donc c'est une étape de plus. Je vous disais tout à l'heure, j'avance dans ma progression, je vous disais l'homme, l'humanité dans son environnement, l'humanité avec son environnement. Et l'intégralité, ou l'intégrité, comme il dit, trouve là sa place. C'est avec un ensemble que le pape demande que l'on relie, qu'on le lie les choses les unes aux autres, qu'on ne prenne pas, même s'il faut en faire l'analyse, mais qu'on ne prenne pas définitivement une chose pour elle-même sans qu'elle soit liée aux autres choses qui font qu'elle trouve sa place dans cette harmonie que nous cherchons tous. Donc, ce sont les diverses composantes des dimensions humaines, sociales, politiques, économiques et les composantes de l'environnement tel qu'il est et tel que nous voulons qu'il soit, pour le respecter, pour nous en servir aussi, mais surtout pour ne pas abuser de lui. C'est cela qui fait que nous sommes devant l'écologie intégrale. Ces conditions de vie et de survie, dit-il, d'une société. Toutes les conditions de vie et de survie. Toutes les conditions de développement. On avait déjà une doctrine sur le développement, chère notamment au pape Paul VI. Tout ce qui concerne la production et la consommation. Vous voyez comment il aborde les choses ? Mais il lit tout ça, même s'il faut aborder d'une manière propre ce qui est développement, ce qui est production, ce qui est consommation. Nous ne pouvons pas les laisser les uns à côté des autres. C'est tous ensemble qu'il faut les aborder. Car tout est lié, le terme y est dans l'encyclique. Tout est lié. Alors vous voyez que nous sommes devant quand même quelque chose qui est relativement neuf quand même. Surtout, dit-il, la science elle est partielle. Elle aborde des éléments les uns à côté des autres. Hein. Donc il faut prendre ce qui est décidé, mais il faut après le mettre en relation avec les autres éléments. Les connaissances partielles, et notre monde vit beaucoup de cela, sont très dangereuses. Elles portent atteinte à l'harmonie des relations qui lient l'humanité à l'environnement et l'environnement à l'humanité. Vous voyez comment il aborde la chose. Et cela, je vous le disais, change complètement notre regard. Si bien que lorsqu'on a un problème humain, un problème écologique, proprement écologique, un problème environnemental, il faut toujours l'aborder en sachant qu'il faut le lier à d'autres éléments. Ça, c'est une vue importante qu'il a, une vue globale. Mais en même temps, comme il aborde les questions les unes après les autres, quand il parle du logement, quand il parle de la pollution, quand il parle des transports, aussitôt, il en conclut que les transports, mais il faut lier cette question-là à la manière dont on vit. Lorsqu'il parle du logement, ce logement qui ne va pas bien, parce qu'on en manque, bon, il faut aborder cette question. Mais attention, on pose en même temps d'autres relations avec la vie en commun. Donc, vous voyez, on n'a jamais fini de dire, mais enfin, où est donc cette écologie intégrale? Elle est partout, elle nous tient partout, si bien qu'on n'a pas le droit de s'arrêter simplement à une question pour elle-même. Il faut la traiter pour elle-même, mais aussitôt la situer, la positionner par rapport aux autres. Quand il parle de la pollution, par exemple, ou du climat, le climat déréglé, eh bien, voilà, ça vient d'où? Ça nous mène où? Et c'est relatif à quoi? Alors, il fait une analyse très simple, et il en tire une conséquence éthique, une conséquence de positionnement humain, l'être humain qui doit, lui, être le centre, qui est le centre de toute la création, de toute la terre. L'être humain est obligé quand même de se situer comme il est, tout ce qu'il est, par rapport à tout ce qu'il a, par rapport à tout ce qui l'environne. Alors, il reconnaît que les politiques n'y arrivent pas. Et que si jamais, il dit, pour le dérèglement climatique, pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il y a tellement d'enjeux économiques notamment, d'enjeux scientifiques. On n'y arrive pas. Alors on préfère continuer et faire l'opération que j'appellerais rustine, mais qui dit ça ne mène nulle part, car on n'aborde pas en profondeur les questions en relation les unes avec les autres. Il faut avoir une vue beaucoup plus profonde, sur les choses. Bon, j'ai ici l'entassement urbain. Il a des phrases très intéressantes sur l'entassement urbain. Qu'est-ce que ça donne, l'entassement urbain? Ben, ça va nous donner des comportements inhumains, ça va nous donner la violence, ça va nous donner des faiblesses, la faiblesse des services, on n'a pas les services qu'il faut. Et notamment, dit-il, dans les zones rurales. Vous voyez, de l'urbain qui ne va pas bien, il passe aux zones rurales qui ne vont pas mieux. Parce que ce n'est pas vu d'une manière convenable, d'une manière dynamique, d'une manière où il faut aborder les questions en relation les unes avec les autres. J'ai bien aimé aussi ces textes sur la pollution. Et pas simplement la pollution atmosphérique, mais la pollution humaine, avec la drogue, avec tout ça. On parle de la drogue, mais ça vient d'où? On lutte contre la drogue en prenant les dealers, mais elle vient d'où? Et qu'est-ce qu'on fait pour l'origine? Donc, on aborde la chose trop en soi, en elle-même. Les dealers, oui, ça on ne veut pas qu'il y ait ça. Mais elle vient d'où la drogue? Elle est produite par qui? Et quand il abordera l'Amazonie, il dira oui, elle vient aussi de là, de ces pays maltraités qui doivent survivre. Non, il dit, il faut une autorité peut-être mondiale. Il n'est pas contre la mondialisation, Au contraire. Mais quelle mondialisation! En tout cas, il ne veut pas que la logique de la domination, qui est liée à la logique de la parcellarisation, que cette logique-là l'emporte, alors qu'on la voit partout, la domination. Il poursuit, il a comme ça des poursuites très fortes, la domination. Et il dit, qui c'est qui paye la domination? Ce sont les petits, ce sont les faibles, ce sont les pauvres. Donc, il veut que l'écologie globale soit d'abord, dit-il, le respect des personnes. Or, on ne le constate pas partout, le respect des personnes. Les droits fondamentaux et inaliénables. Quand tout à l'heure je vais vous parler de l'Amazonie, les pages sont très fortes. Le bien-être social. Il a de très belles pages sur le bien-être social, qui est lié à la culture. La culture. On voit que ce pape qui vient d'Amérique du Sud, il a une vision de la culture qui vaut celle que nous avions, nous, en Occident. Vraiment, hein, elle est peut-être même plus dynamique, la sienne. Les familles sont désaxées. D'ailleurs, il n'y a plus d'élan vers les familles. La paix sociale. Et enfin, dit-il, enfin, ce mot arrive assez loin dans l'encyclique, la solidarité contre les inégalités. Il n'en met pas d'abord la solidarité, alors que nous serions portés à mettre la solidarité avant toute chose. Non, il parle d'abord la personne, le respectons la personne, ses droits. Voyons comment elle vit, quel est son bien-être social. Il y a de très belles pages sur le bien-être social. Ces conditions qui font qu'on vit ensemble d'une manière harmonieuse, le plus harmonieuse possible. La solidarité contre les inégalités. Vous voyez, les inégalités arrivent après. Alors là, il y a la solidarité qui vient contrer les inégalités. Et donc, ce chapitre très dense va aussi aborder à un moment donné le bien commun. Là, nous sommes en pleine doctrine sociale de l'Église, le bien commun. Je vous rappellerai que la grande tradition du bien commun vient bien sûr des grands théologiens, mais elle a été mise à jour par le pape Jean XXIII dans Pacem in Terris. C'est son encyclique qui restera dans l'histoire, le bien commun. Il a deux paragraphes sur le bien commun. C'est pas beaucoup, mais ils sont d'une densité très forte. L'écologie humaine est inséparable de la notion du bien commun, un principe qui joue un rôle central et unificateur dans l'éthique sociale. Vous avez vu, hein, deux lignes et demie, l'écologie humaine est inséparable. Le lien de la notion de bien commun, un principe qui joue un rôle central et unificateur. Vous voyez la dynamique là, hein? Ce n'est pas unificateur un point, c'est tout. Unificateur et central, pardon, et unificateur dans l'Église, dans l'éthique sociale. C'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent, là, il cite, hein, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection, là, d'une façon plus totale et plus aisée. C'est ici, au 157, qu'il dit, le bien commun présuppose le respect de la personne humaine, comme telle, la personne comme telle. Car elle a une grande valeur, c'est elle qui a la valeur première et dernière, avec des droits fondamentaux et inaliénables. ordonnée à son développement intégral. Là, il cite Paul VI. Le bien commun exige le bien-être social. Vous voyez, là, autour de nous, où nous en sommes avec cette phrase. Le bien commun exige aussi le bien-être social et le développement des divers groupes intermédiaires selon le principe de subsidiarité. Mais on y est en France, on a ces problèmes-là. Parmi ceux-ci, la famille, la paix sociale, la stabilité et la sécurité d'un certain ordre qui ne se réalise pas sans une attention particulière à la justice distributive, c'est classique. Dans les conditions actuelles, dit-il, de la société mondiale, où il y a tant d'inégalités et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, il devait penser, je pense, en écrivant cela à son Amazonie, le principe du bien commun devient immédiatement, comme conséquence logique et inéluctable, un appel à la solidarité. Et une option préférentielle pour les pauvres. Ça y est, vous voyez comment arrive toujours la question des pauvres, la question de ceux qui sont très souvent en marge. Donc, cette idée d'écologie intégrale, elle est neuve dans la manière dont le pape François la présente. Je crois qu'on avait déjà ces éléments dans notre doctrine de relation, mais pas aussi poussé que ce qu'il lui-même dit et demande. Peut-être que je vous lirai quelque chose tout à l'heure, quelques phrases concernant certains textes. Or, par deux fois, dans l'encyclique, le pape évoque l'Amazonie. Et c'est que je vous disais qu'il avait déjà ce problème amazonien d'Amérique du Sud, déjà avant d'écrire l'encyclique, parce que l'encyclique évoque ouvertement, explicitement, par deux fois, l'Amazonie. Il évoque la protection des forêts, nous en savons le drame, et il évoque après les communautés arborigènes et à leurs traditions culturelles. Ça, c'est dans l'encyclique. Donc, il y a déjà cette ouverture vers l'Amazonie. Vous savez ce qu'il dit des forêts dans l'encyclique ? Elles sont les témoins muets de la violation fréquente des lois. Témoins muets de la violation fréquente des lois. Même si, dit-il, on a fait des lois pour les abattre. Témoins muets. Là, vous avez le style du pape François. Témoins muets. Les forêts. Et l'exhortation se présente d'une manière très, très habile. Vous savez que le contexte était difficile. On attendait, à propos de l'Église, des faits nouveaux qui viendraient toucher le ministère, les ministres, etc. On attendait tout ça. Et tout le monde, enfin beaucoup, ont été déçus. Puisque le pape n'a pas répondu directement à ce que le synode avait demandé dans ses nombreuses propositions. Il y avait 118 propositions. Mais il dit au début de l'exhortation qu'il a tout regardé et d'une manière très habile, il faut savoir lire les choses, il nous demande à tous ceux qui liront son exhortation de lire les propositions du synode. Ce qui veut dire qu'indirectement, il les approuve. Pas directement, mais indirectement, il les approuve. Il nous demande de les lire. Alors qu'on attendrait qu'il y ait les ordinations de viri probati, d'hommes mariés, etc., etc. On attendait tout ça. Hein. Il ne répond pas, on a dit, ben, le pape est rétro. Hein. Les conservateurs, ils ne bougent pas. Hein. Bon, sauf que vous avez lu peut-être, moi j'ai lu dans la croix d'aujourd'hui ou d'hier, un petit entrefilé, il y aura des exceptions prévues au célibat sacerdotal. C'est sous voyez, on ne l'arrête pas, ce pape. Hein. Il ne veut pas contrer, il était contré. Là, hein. Contré. Hein. Bon, quand le pape Benoît XVI a fait une institution nouvelle pour les pasteurs anglicans qui se convertissaient, pouvaient rester dans l'état du mariage et dans leur famille, ça n'a pas fait grand bruit. Mais ce pape-là, il est un peu clivant, si vous voulez, hein, davantage que Benoît XVI. Hein. Donc, ben, qu'est-ce qui va nous arriver demain? Je n'en sais rien. Des exceptions. Mais l'Église vit d'exceptions, d'ailleurs c'est son droit, hein. Dans son droit il y en a beaucoup, hein. Les lois sont générales, mais elles ont des difficultés d'application. En tout cas, il présente l'exhortation de manière fort habile, vous disais-je, sous forme de rêve. Premier chapitre, un rêve social. Deuxième chapitre, un rêve culturel. Troisième chapitre, un rêve écologique. Quatrièmement, un rêve ecclésial. Il rêve. C'est très habile parce que, à la fois, c'est poétique, c'est imaginatif, c'est créatif. Hein, le mot créatif revient continuellement dans l'encyclique. On n'est pas assez créatif, dit-il. C'est créatif, c'est un peu imaginer, mais c'est pas forcément farfelu, un rêve. Et effectivement, l'appel à cette figure du rêve lui permet de parler librement des situations difficiles, douloureuses, de faire des propositions audacieuses, de louer ce qui doit être loué, de condamner ce qui doit l'être. Je pense que beaucoup qui lisent cette exhortation, au moins là-bas en Amazonie ou pas loin, mais même chez nous, parce que nous sommes concernés, nous sommes sûrement très agacés de voir que le pape prend le contre-pied de beaucoup de nos façons de faire. Il ne nomme aucune entreprise, soit peut-être l'une ou deux, mais toutes les entreprises, tous les chefs, les entrepreneurs, ne peuvent pas lire ce texte sans être travaillé par ce texte. Vraiment. Il a une audace dans son rêve. Et à travers des choses pratiques qu'il dénonce, qu'il voit. Donc, il a la possibilité de dire quelque chose. Bon, il fallait un pape d'Amérique latine, je pense, pour parler comme ça. Mais c'est quand même très fort. Je trouve personnellement que c'est très fort. Et moi, j'ai grand plaisir à voir comment il conduit son rêve. En tout cas, il n'oublie pas d'écrire ce qu'il veut écrire. Ça, il le fait. Et après avoir reçu les propositions des pères du synode, après avoir suivi lui-même, il a suivi lui-même les travaux du synode. Donc, il ose dire, à la manière d'un rêve, ce qu'il souhaite, ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bien-vivre qui n'existe pas. C'est un désastre écologique, c'est le mot. Un désastre écologique qui entraîne, dit-il, injustice et crime. Les droits des peuples autochtones sont ignorés, même supprimés. Il y a une véritable destruction de l'environnement. Or, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout est lié. S'il y a destruction de l'environnement, il y a destruction de l'humanité. D'où l'atteinte à la vie des populations. L'éthique ne compte plus. Les droits humains ne sont plus respectés. Et il parle de nouvelles formes d'esclavage. Une véritable exploitation humaine. Domination des pauvres. Alors, dit-il, c'est le numéro 17, il s'agit d'être aujourd'hui réellement humain. Vous avez entendu ? Il s'agit aujourd'hui d'être réellement humain, numéro 17. Une phrase comme ça dit que si on ne suit pas ce qui se passe mal, eh bien, on n'est pas réellement humain. On ne vit pas l'humanité. Il dit, évidemment, il faut prendre les populations comme elles sont. Elles ont un grand sens communautaire. Elles sont très imprégnées du mode de la nature environnante. Elles vivent très profondément avec la nature environnante, avec la terre, c'est leur terre, et avec le fleuve, avec l'eau. Or, on regarde que les institutions sont dégradées. On n'a plus confiance dans les institutions, ce que je vous disais tout à l'heure sur les lois. C'est un véritable fléau moral qui touche tout le monde, pas simplement les pays d'Amazonie, mais tous les autres pays qui, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, sont cause de ces dégâts, du désastre écologique. Il dit qu'il faut respecter tout le monde. Et c'est alors qu'il aborde le rêve culturel. Après avoir dit, regardez, le rêve social, ça ne tient plus. C'est l'exploitation. C'est la dégradation de l'environnement. Il dit, regardons maintenant le côté culturel. Ce qui fait la vie en humanité. Il y a plus de 110 peuples indigènes en état d'isolement volontaire, en grande fragilité. Et il a des mots très durs pour la colonisation culturelle qui porte atteinte au style de vie, aux communautés autochtones, qui méprisent leur sagesse. Le mépris de la sagesse de ces peuples, parce que les autres se considèrent supérieurs. On est supérieur par certains côtés, mais est-ce qu'on l'est sur la sagesse de vie? Et ici, il aborde, comme il l'a fait dans l'encyclique, la vision consumériste. Il est très dur pour le consumérisme, dans lequel nous sommes tous. Il dit, même sans que nous nous en rendions compte, hein, le consumérisme, c'est de chercher toujours plus. Alors qu'on n'a aucun besoin, mais le besoin est créé, il est là, donc on veut toujours plus, on veut toujours. La vision consumériste a fait mal à la sagesse, et j'aime l'expression, à la consommation mesurée de ces peuples, et non que ça pour vivre. Il dit, il y a une sagesse que nous n'avons plus. Nous n'avons plus une sagesse mesurée, une consommation mesurée. Parce que, dit-il, on n'a plus comme eux le lien avec la terre mère et avec tout ce qui nous entoure. J'ai trouvé ce rêve culturel très poignant. Très poignant. Parce que on ne peut pas le lire sans se remettre soi-même en question avec notre propre culture. Que l'on croit supérieur parce qu'on a une technologie, une science qu'ils n'ont pas, mais on a perdu, dit-il, la sagesse de vivre, du bien vivre. Le plaisir, dit-il, les plaisirs se succèdent les uns aux autres et ne construisent rien, ils détruisent. Il faut regarder leur identité, la comprendre, leur histoire. Chez eux, tout est collectif. Tout est collectif, tout est communautaire, tout est collectif. Et donc, il faut nous comprendre, essayer de comprendre cette collectivité qui est très différente de la collectivité du marxisme, par exemple, du communisme. C'est tout à fait différent. Or, on n'a qu'une seule vision. Il faut se détacher de soi-même pour mieux comprendre l'autre, essayer de le comprendre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce dont il a besoin. Or, dit-il, qu'est-ce que c'est que nous vivons, nous, dans notre culture ? Le consumérisme économique. L'individualisme. Nous y sommes dedans. On voit très bien combien il est difficile de faire du collectif. La discrimination, l'inégalité et la prétention du progrès. Il y faut du progrès. Mais qu'est-ce que c'est ce progrès qui revient continuellement et qui n'arrive pas à trouver ses propres solutions ? L'économie globalisée, c'est l'économie mondiale, altère sans pudeur la richesse humaine, sociale et culturelle de ses peuples. Je répète, c'est le numéro 39. L'économie globalisée, elle a un lien de domination, altère sans pudeur la richesse humaine, sociale et culturelle de ses peuples. Et c'est alors que le pape rend hommage à l'encyclique. Il la cite au numéro 40 et 144. Après avoir cité dans l'encyclique la situation de ces peuples d'Amazonie, voilà qu'il rend hommage à l'encyclique dans ce document concernant l'Amazonie. Alors il interroge. Quelle est la qualité de vie ? Qu'est-ce qu'on veut leur imposer ? Quelle est leur propre culture ? Au rôle des symboles très importants, aux habitudes propres ? Quelle est leur qualité de vie ? Et quelle est la nôtre ? Donc, le rêve culturel est très fort. Or, on a tué leur culture. Parce qu'on a tué l'environnement. Car, dit-il, tuer l'environnement, c'est tuer la culture. Tuer la culture, c'est toucher l'environnement. Enfin, il aborde le rêve écologique. Là, c'est la nature qui est au centre de la réflexion du pape. Une relation si étroite entre l'homme et la culture, entre l'existence quotidienne et toujours cosmique, on ne peut l'ignorer. Une relation si étroite entre l'homme et la nature. L'existence quotidienne et le cosmos. Tout cela est à mettre toujours au présent. Et il cite Benoît XVI, intéressant, car il dit que c'est lui qui a fait le lien entre l'écologie naturelle et le savoir du respect de la nature et l'écologie humaine. C'est Benoît XVI qui a fait le premier, voyez, à petits pas, avant que François prenne l'amplitude de cette question, qui a fait le lien entre l'écologie naturelle, le savoir, le respect de la nature et l'écologie humaine. Abuser de la nature, c'est abuser des gens. Les dommages faits à la nature touchent directement la vie des gens. Et c'est ça qui se passe là-bas. Les dommages faits à la culture touchent directement à la nature, pardon, touchent directement la vie des gens. Et voici une phrase que je veux vous citer, numéro 48. L'intérêt d'un petit nombre d'entreprises puissantes, on y est dedans nous là, L'intérêt d'un petit nombre d'entreprises puissantes ne devrait pas être mis au-dessus du bien de l'Amazonie. L'intérêt d'entreprises puissantes ne devrait pas être mis au-dessus des biens de l'Amazonie, et écoutez bien, et de l'humanité entière. Vous voyez la portée. Il n'y a pas simplement l'Amazonie qui compte, elle est liée à tout ce qui est ailleurs. L'humanité entière. Numéro 48. Ce qui se passe en Amazonie, il faut le situer dans ce qui se passe dans le monde. Voilà. Alors, il donne des solutions. Hein. Ce que j'aime chez lui, il ne donne pas la solution. Il dit une solution. Je suis frappé de ça. C'est pas simplement l'humilité. C'est un esprit qui ne se veut pas dominateur, qui ne veut pas apporter les solutions une fois pour toutes. Très souvent, c'est le un. C'est pas la solution, c'est une solution. Voilà. Donc, c'est, je crois, la force aussi de ce texte, de la pensée du pape François. Il oriente vers quelque chose de possible qui aussi s'impose en raison de l'éthique et de ce que les gens doivent avoir. Alors, il a après, ça vous le croyez sûrement, il faut une éducation appropriée. Et l'éducation appropriée chez nous, pas simplement chez eux, elle fait partie de l'écologie intégrale. Vous voyez comment tout a sa place dans une harmonie, hein, qui se cherche. Attention, il ne dit pas que c'est réalisé, il ne dit pas que c'est ça qui, une fois pour toutes, sera à faire. Mais c'est une harmonie qui se cherche, une harmonie où chacun a sa place et où le monde de la nature a aussi sa place. Et alors, il peut appeler à la contemplation. Ce texte à propos de l'Amazonie, je le vois comme une application. Vraiment, une application, plus qu'une interprétation, une application de l'encyclique générale, Laudato Si. Le sens communautaire de ces pays, le sens de la vie est lié chez eux au sens de la nature. Les cultures sont différentes, dit-il. Il ne dit pas que l'une est supérieure à l'autre. Il y a des supériorités partielles. Mais la culture elle-même, toutes les cultures sont différentes. Elle ne dit pas qu'elles se valent, elle dit qu'elles sont différentes. Et il faut les prendre dans leurs différences. L'équilibre planétaire est au-dessus du bien de l'Amazonie. Mais le bien de l'Amazonie rentre dans l'équilibre planétaire. Il faut savoir conjuguer toutes ces choses-là et pour cela avoir une vue, une capacité humaine, la capacité. Il a une vue très positive sur l'être humain. L'être humain est toujours capable de faire du neuf, toujours capable de faire du créatif. L'être humain est toujours capable de changer son cœur. Il est toujours capable. Ça, c'est une vue positive de l'anthropologie du pape, mais qu'il met bien sûr dans la lumière de la révélation. La capacité de l'humain à se relever, c'est pour ça, dit-il, et je le crois quand on termine après avoir peiné, vraiment peiné à lire certaines pages, et que quand on termine, on dit, mais quand même, hein, le pape dit, il y a des possibilités de s'en sortir. L'être humain est capable de se relever. C'est sa dignité. C'est sa dignité. Voilà. Je crois que l'heure est passée. Je vous ai donné un peu en vrac les choses. Parce que je me disais, comment présenter ? Il n'y a encore aucune synthèse faite. Hein. C'est un ensemble, hein. Mais c'est la pensée papale. Ce sont des ensembles qui se suivent, hein. Voilà, hein. Et qui fait qu'ils passent d'un problème à un autre, mais toujours liés. Pas comme un chapelet, vous savez, qui se suivrait, hein. Non, c'est pas juxtaposé. Ils cherchent le lien entre ce qui se passe là-bas et ce qui se passe ici. Cherche le lien entre ce qui fait le rapport de l'homme à la nature, à son environnement. Et sur l'environnement, il a, à la fin, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que d'autres vous le diront, l'environnement, il a un sens par lui-même. Et il dit, à la fin, finalement, Dieu est en tout. Toute chose parle de Dieu. Et là, il fait appel à la résurrection du Christ. Ça serait trop long à mettre, mais ça vaut la peine, sur le plan spirituel, d'avoir là des choses qu'il faut creuser un peu. Tout l'environnement est un environnement qui parle de Dieu. Il n'y a pas que l'homme. L'homme est à l'image. Mais l'environnement vient de Dieu, du Dieu créateur, et le Christ a repris tout ça par sa résurrection. Et il a de très belles pages aussi sur les sacrements. Le sacrement qui est matière, qui nous relie à l'environnement, qui nous relie à Dieu, un Dieu qui travaille à travers la matière, qui travaille à travers notre esprit. Je termine en vous donnant une anecdote que j'ai vécue. Donc, le synode de l'Amazonie s'était achevé. Il s'est achevé par une messe qui a été donnée, je crois, à Cateo, la messe du pape. Et après une messe à Cabreton, un monsieur arrive vers moi en colère. C'est une honte, ces hommes emplumés qui étaient autour de la messe du pape, ces hommes emplumés, c'est vrai, il y avait beaucoup de plumes, hein, parce que c'est un synode où il y a eu la participation la plus forte, hein, par rapport à tous les autres synodes, c'est la participation la plus forte, hein, pas simplement de laïcs, mais d'un ensemble, hein, qui représentait ces peuples, et de chez nous aussi, hein. D'ailleurs, il y avait un évêque français qui était présent, puisque lui, il est là-bas, en Amazonie. Bon, c'est l'évêque de Cayenne. Bon, mais donc, alors ce monsieur, je le voyais furieux. C'est une honte que ses plumes étaient à la messe du pape. Je n'ai pu rien lui dire, parce que, sinon par mon silence, tellement qu'il était... Et je me dis, ce monsieur n'a rien compris. Rien compris aux cultures, aux liens qui nous unissent, dans la différence, dans les différences, hein, mais aussi dans ce lien humain qui nous fait, comme dit le pape, l'Église avec lui, frères en humanité par le Christ. Voilà, j'ai retenu cet épisode parce qu'il m'a marqué, puisque j'ai été pris à partie comme s'il était pour quelque chose. Je n'y étais pour rien, hein, mais c'est vrai que ça fait drôle de voir ces hommes pas bien habillé comme nous, hein, emplumé, hein, bon, mais c'est l'humanité, et le pape dit, on est tous liés en humanité, en fraternité. Voilà. Éducation. Vous savez, j'avais noté des phrases à lire qui sont très prenante, hein. Mais je crois qu'effectivement, quand on peut lire ce petit texte, il est petit, hein, je vous demanderai si vous avez un choix à faire, prenez le texte sur l'Amazonie, hein, parce qu'il contient quand même tout le reste de la grande encyclique, mais même l'encyclique, hein, je vous assure. Je me disais, heureusement qu'on est dans un pays laïque, nous. On n'en a pas parlé. On en a parlé, mais enfin, les grands médias, hein. Comment ?
Il y a certains intellectuels qui ont réagi.
Oui, certains intellectuels. Ah, l'Abdot aussi. Mais tout ce qui est responsabilité de pouvoir. Or, ils sont tous pris là-dedans. Non pas pour les condamner, C'est une, voyez, le pape ne condamne pas, même lorsqu'il parle du consumérisme, lorsqu'il parle de la violence, lorsqu'il parle de la pollution, lorsqu'il parle de la drogue, il en parle à plusieurs reprises, il condamne pas, il constate, il dit c'est malheureux, et il propose quelque chose. C'est ça la force du pape François. C'est pas une condamnation. Je pense qu'on aurait écrit ce texte il y a simplement 30 ans, 50 ans. On aurait eu condamnation. Lui, hein, il n'est pas pauvre, il dit les choses. Hein. Quand on a fermé ça, on se dit, mais l'entreprise qui met tout par terre, qui sort donc les gens de leur écosystème. Bon, cette entreprise-là, quand elle lit ça, parce que ces entreprises, ça a dû, je pense, dans les entreprises, beaucoup plus qu'en politique. Mais on se sent visé. Voilà. Je termine quand même par une prière, si vous voulez. À moins que vous ayez des questions.
Une autre question, peut-être, avant de conclure tout à l'heure. De ce que nous avons entendu, de ce que nous dit le pape.
Ah non, il nous parle à nous tous. Hein. Moi qui ne suis rien, je me suis senti, vous savez, vraiment partie prenante. Je me dis, mais c'est vrai. Hein. Alors, si vous voulez, une prière à la fin. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante, elles sont tiennes. Sont remplis de ta présence comme de ta tendresse. Les créatures, le Père. Loué sois-tu, Fils de Dieu, Jésus. Toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie et tu as fait partie de cette terre. Et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu, Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne les gémissements de la création. Tu vis dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans le monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre. Parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence. Aime le bien commun qui promeuve les faibles pour qu'ils se gardent du péché. Qu'ils aiment le bien commun qui promeuve les faibles. Prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent. Loué sois-tu. Amen. Vous avez vu la grande richesse spirituelle mais dogmatique et la création et puis la résurrection, la présence de Dieu dans le monde. C'est la conclusion.